Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici à nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du texte de Alain Emery, Passage des mélancolies. Entre deux coupes de champagne, elle mesure le monde. La misère et la crasse d'un côté, le luxe et l'indécence de l'autre. Et sans doute se forge-t-elle devant tant d'absurdités un serment qui, jusqu'à son dernier souffle, l'unira à la plus délicieuse des bohèmes. Combien de fois l'ai-je surprise, qui dansait dans le silence de sa chambre, sapée de strass ou de lamé, prodigieuse ballerine que les années avaient rendue plus légère encore. Je la contemplais, aérienne, comme suspendue à la faible lumière du jour, et je savais ce qui l'entraînait ainsi, le délicat souvenir de ces années d'insouciance. Je ne compte plus les villes traversées, Suzy. Tous ces hôtels garnis de marbre et de velours, toutes ces villégiatures de haut standing sur le perron desquels des grooms en livrée venaient chercher vos imposants bagages. Biarritz, Monaco, Lucerne, Antibes, Bagnole de l'Orne, où avec deux amis vous accompagnez Moreno qui souffre de phlébite, Dinard. À Saint-Malo, je sais que vous revenez souvent dans la villa qu'une maîtresse d'Armand possède sur le sillon. J'y suis allé en vain. Je n'ai pas trouvé cette demeure dont vous disiez qu'elle finirait gagnée par la rouille et battue en brèche par les flots. À quel balcon vous penchiez-vous ? Vous imaginiez-vous à la proue d'un de ces paquebots dont vous raffoliez en route, déjà, vers de nouveaux horizons ? D'où je suis, avec ces années de recul, on vous croirait insatiable, poursuivi, peut-être, par je ne sais quel démon. Courant sans relâche après un rêve inaccessible, bâti avec du sable, et s'effondrant chaque fois que vous le touchiez du doigt. Derrière ces voyages couve une soif, une curiosité impatiente. Vous ne tenez pas en place, vous reproche Maurice. Dans une lettre d'octobre 1923, il s'inquiète pour vous, son vœu de ne pas vous protéger davantage. Il finira en 1925, me semble-t-il, par quitter son tailleur pour rejoindre la troupe comme régisseur. En attendant, je crois vous apercevoir. Le vent gifle votre visage. La vie galope ventre à terre. C'est la première fois que je vous vois heureuse. À Saint-V, la maison de l'horloger n'est plus que cris et sanglots. Dès qu'Irène et Louis baissent le rideau sur la nuit tombée, ils se rejettent la faute, maudissent le destin, mais implorent le Seigneur. Le jour, ils s'épuisent à feindre. Pour celles et ceux de plus en plus nombreux qui s'inquiètent de ne plus voir Suzy au village, ils inventent des mensonges auxquels très vite personne ne croit plus. On parle. C'est une fièvre irréversible, un mal vautré dans sa bouche. On chuchote et je vous laisse imaginer ce qu'on dit. Irène et Louis ont d'autant moins de mal à deviner ce qui se murmure dans leur dos qu'ils seraient, si le malheur en frappait d'autres, les premiers à cravacher la meute. Qui le premier parle de putain, je l'ignore. Le courage n'est pas la vertu cardinale des vipères. Sans doute faut-il chercher les origines de la rumeur sous les bénitiers, du côté des bons chrétiens, du nombre, du troupeau. En pointant du doigt l'infortune, on se range à la droite de Dieu dans le clan des méritants. Il ne reste qu'à sous-entendre que le Tout-Puissant n'accable pas sans raison, qu'il fait payer rubis sur l'ongle les arrogances à son endroit. Voir la grêle s'abattre sur le champ du voisin est un réconfort, surtout s'il est deux fois plus grand que le vôtre. Regardez le grand orfèvre de Saint-V, dégringolé du piédestal sur lequel il s'était hissé seul, est une réjouissance pour beaucoup. S'il prenait à un photographe l'envie de rameuter les gens du bourg et des environs sur la place du village pour leur tirer le portrait, pressentirait-il la menace ? Parviendrait-il à flairer sous les frusques, derrière les sourires de façade et les postures affables, la haine qui macère ? Devinerait-il la houle naissante en cette masse de chair et de sang, la vague encore lointaine qui emportera quelques années plus tard, au mois de juin 1929, tout ce qui la veille encore les rapprochait de nous ? Je regrette que cette photographie n'ait pas été prise, qu'elle ne figure pas au nombre des pièces que j'ai pu rassembler. Nous pourrions les voir, alignées avec soin, se serrant les uns contre les autres comme s'ils espéraient souder entre elles leur peur et leur bassesse. Au pardon que leurs descendants pourraient invoquer, je poserai ce témoignage à charge. Mais je me contenterai des faits. On dit qu'ils parlent d'eux-mêmes. Votre vie, Suzy, fait un boucan de tous les diables. Peut-être comparable à celui du sang se frayant un chemin dans nos chairs. Sans doute plus proche de la rumeur d'un music-hall. Je pourrais mettre ma tête à couper que ces années qui défilent et scintillent sous mes yeux sont les plus belles que vous ayez vécues. Mais ce ne serait que de l'encre, une simple acrobatie. Ce que je déploie en pareille circonstance n'a guère plus de poids qu'une poignée de poussière lâchée en plein vent. Rien n'est sûr, et qui pourrait savoir aujourd'hui ce que vous ignoriez alors ? S'agissant de ceux qu'on côtoie, de ceux qu'on aime, qui peut prétendre être certain de ce qu'il avance ? Ce ne sont pas les questions qui manquent. Étiez-vous amoureuse de ce gaillard avec lequel, durant le printemps 1925, vous vous affichiez sans vergogne ? Et lui ? Ce lascar aux moustaches de cosaque, dont on disait qu'il avait, du temps où il travaillait pour le gigantesque cirque Barnum et Bailey, tué le fameux éléphant Fritz, brutalement devenu fou furieux. Le 11 juin 1902, vous aimait-il ? Mais peut-être n'était-ce qu'une simple histoire d'amitié, comme celle qui vous lie dès 1926 à ce célèbre posticheur de Montargis, connu pour avoir été le dernier coiffeur de la tsarine. Si ce que je parviens à mettre en lumière retombe aussitôt dans l'obscurité, si, croyant les amener avec vous, je conduis les autres au cœur même des plus épaisses ténèbres, croyez bien, Suzy, que je m'en moque. Devant ce cliché daté de 1927, par exemple, où vous apparaissez, tête nue, appuyée au bastingage d'un navire dont j'ignore le nom, je me fiche de savoir si vous voguiez vers le Caire, où Moreno rêvait de se produire, ou vers Naples, où vous disiez que la vie et la mort ne pouvaient espérer meilleur décor pour s'affronter. Je me contente de vous voir tel que vous êtes à cet instant, resplendissante. Et devant cette photo réputée avoir été prise à Mexico, je me fous de l'Olibrius qui vous a posé ce perroquet sur l'épaule, et je ne me soucie pas davantage de l'inconnu auquel, le 2 août 1926, vous avez écrit sur un papier rare cette lettre merveilleuse. Dans laquelle il était question de vos deux corps enlacés d'amour et de jalousie. Sans jamais l'expédier, à quoi bon vous épingler ? Je veux juste ne pas vous trahir, Suzy, jusqu'au bout demeurer fidèle à la femme que j'ai connue et dont les yeux brillaient parfois avec une telle intensité qu'elle semblait traverser à nouveau son propre tumulte. J'aimerais tant qu'il mesure combien vous avez aimé la vie et à quel point celle-ci vous l'a rendue. Il y a bien des façons de mesurer les effets du temps. On peut s'allonger dans l'herbe tiède et regarder le ciel changer d'allure à la vitesse qui lui chante jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce dont on a cru se souvenir. J'ai préféré m'approcher au plus près, me munir d'une loupe et fouiller le bronze des portraits, suivre les rides creusées sur le visage d'Armand et m'attendrir des heures et des jours ruisselant dans ses ravines. C'était comme examiner à la lumière des lampes la pellicule d'un vieux film oublié. Le passé respirait à nouveau 24 pulsations à la seconde et j'ai passé les vies au crible.
Je suis la honte de la ville. Je suis celle qu'on ne reçoit nulle part. Les filles comme moi, les inutiles, il vaut mieux les tenir à l'écart. On fait semblant de ne pas me connaître parce que j'ai eu plusieurs amants. Mais il y a des yeux derrière les fenêtres pour surveiller tous mes mouvements. Je suis la terreur des familles, le scandale de tous les gens bien. Je fais trembler les vieilles filles, je fais rêver les collégiens. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste se donnent le bras, elles ont les accostes, tandis que moi, lorsque je passe dans la rue, il n'y a personne qui me salue, personne qui m'aime ou qui me voit. Les gens bien me montrent du doigt. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste se donnent le bras, elles ont les accostes, moi pas. On a dit que le fils du notaire s'était tué par amour pour moi. Au fond, je sais bien que s'il a fait ça, c'était pour embêter son père. Seulement voilà, tous ils m'en veulent, comme si j'avais quelque chose à voir. Et les voilà qui me font la gueule parce que je m'habille tout en noir. Non, je ne mets pas de rouge à lèvres. J'ai des chemises et des bas de soie. Tant pis pour tous ceux qui en crèvent. Chaque soir, il y a un homme chez moi. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste, dans l'air lit froid, rêvent de timbre poste, tandis que moi, je fais des rêves de jeunesse. Je fais des rêves de caresses. J'aime la vie, j'aime l'amour. Et je sais qu'on trouvera un jour, parmi les timbres postes et les mandats, toujours fidèle au poste, à 6h03, les dames de la poste, les bras en croix, mortes dans leur poste, et moi pas.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au texte de Alain Emery, passage des mélancolies après Juliette Gréco. Ainsi, je sais qu'Armand est, le 16 mars 1927, pour la première fois entendu par la police. Un mercredi. À la demande du commissaire Caron, qui le soupçonne d'acquaintance avec les malfrats les plus en vue. Au 36 Quai des Orfèvres, sans doute, espère-t-on qu'il livrera des informations sur les hommes avec lesquels, chaque nuit, dans des cabarets louches, il partage le meilleur champagne. Il ressort libre, sans aucun fil à la patte. C'est un sursis. Le 14 janvier de l'année suivante, Armand est appréhendé à la sortie d'un dancing réputé pour accueillir des opiomanes. Caron, dont le portrait figure à la une du Petit Parisien, l'œil vache, les bacchantes passées au cirage, voudrait en savoir davantage sur l'attaque à main armée d'une banque de la place Clichy. Armand est interrogé des heures durant et ne met le nez dehors qu'au crépuscule du jour suivant. Aucune charge n'est retenue contre lui. Armand, je lis en lui à cette seconde. C'est un livre ouvert. Je me reconnais dans cet homme qui ne croit pas à grand-chose, que rien ne comble durablement, dont les digues sont depuis longtemps rompues. Cette pègre élégante, audacieuse, qui joue du couteau, jongle avec des calibres et roule dans des berlines hors de prix, c'est la distraction par excellence. À l'échelle du milieu, Armand, comme souvent ceux qui sont revenus de tout, ne joue qu'un second rôle. Ce n'est même qu'un détail, mais qui pèsera pourtant sur l'agencement des astres. Quant à Maurice, il semble rajeunir de jour en jour. Il poursuit son exploration amoureuse, tantôt avec une Anglaise dont les seins ont fait les beaux jours de la Riviera, tantôt avec une Italienne jalouse qui manquera de peu de lui crever un œil. On le voit au bras de la petite fille d'une princesse russe, connue dans l'intimité du tout Paris pour l'infinie souplesse de son corps. Au cou d'une effeuilleuse brésilienne qui veut de force le ramener dans son village. La liste n'en finit pas. Maurice porte le canotier comme personne, légèrement de guingois, fume un peu et ne boit pas une goutte d'alcool. Je me plais à l'imaginer alignant à l'aube dans un petit carnet à spirale, comme un pilote peignant de petits cercueils sur la carlingue de son avion de chasse, les noms et les nationalités des femmes qu'il vient de coucher dans son lit. Il n'a pas un mauvais fond, mais c'est un incorrigible sensuel. En vérité, la seule à laquelle il restera fidèle jusqu'au bout, c'est Suzy. Il m'est difficile de mettre un nom sur le sentiment qui l'anime. Maurice n'est pas bavard. Derrière lui, il n'a laissé de traces ni de ses désirs, ni de ses regrets. Sa vie est pareille au marécage où tout se ressemble, se confond. On peut y perdre son chemin ou, plus sagement, renoncer à le chercher. Ce qui demeure et saute aux yeux, c'est qu'il est l'ombre bienveillante. Celui qu'elle appelle à la rescousse de jour comme de nuit, et contre lequel elle se blottit quand les jours merveilleux le sont un peu moins. Je me souviens d'un soir de gros temps l'année précédant la disparition de Suzy. La tempête avançait sur nous à la manière d'un brise-glace, ouvrant sur ses flancs des brèches de lumière. Nous avions renoncé à la terrasse pour son balcon. Nous écoutions un enregistrement de Caruso. Una furtiva lacrima. Et le timbre lointain du ténor semblait la plonger dans la mélancolie. Ses paupières battaient avec lenteur comme des voiles au repos. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, j'avais l'impression d'un avant-goût de la mort. Alors qu'une douleur inouïe me submergeait, je l'ai vue, qui se dressait soudain entre l'horizon meurtri et moi. Je l'entends encore. Croyez-moi, un jour ou l'autre, la vie sera injuste, elle l'est toujours. Quand elle en viendra à nous séparer de grâce, ne la repoussez pas. C'est la seule route à suivre. Le souvenir de cette conversation m'a terrassé de nouveau alors que je disposais sur votre lit vos robes orphelines. J'ai voulu vous revoir et j'ai fouillé vos innombrables photographies. C'est à cet instant seulement, en sortant les cartons à chapeau où vous les entreposiez, année après année, que j'ai pris conscience que la dernière était datée du 6 mars 1929. Après, plus rien. Votre vie semblait s'arrêter au seuil du printemps, comme devant un précipice. Vous l'aviez pourtant traversée. J'avais dansé, ri avec vous des décennies plus tard. Je vous ai parlé, Suzy, des heures durant, sans quitter des yeux cette ultime photographie où vous apparaissez dans votre robe anthracite à motifs, plus élégante que jamais devant ce que je pense être un lac. Belle et mélancolique. Déjà. Comme si vous pressentiez à la seconde où on vous immortalise que la vie sera injuste. Parce qu'elle l'est toujours. Ne m'en veuillez pas, Suzy, il fallait que je sache. À Saint-V, Suzy n'est alors qu'une ombre, un secret de famille. À force de ne convoquer son souvenir qu'au seuil des cimetières vers lesquels les poussait la mort d'un des leurs, ils ont fini sans s'en rendre compte par l'associer au malheur. Certains ont pu dire qu'elle n'était rien pour eux. Mais la vérité, c'est qu'elle les a laissés depuis si longtemps sans nouvelles qu'ils se demandent si elle a seulement existé. 9 ans après son départ, elle n'a de réalité que dans l'herbier défraîchi des albums de famille. Encore n'y apparaît-elle la plupart du temps qu'indistincte et vaporeuse au travers du voile de l'enfance. C'est justement aux funérailles d'une tante éloignée, le 12 mars 1929, que Louis, si austère qu'il semble dominer le troupeau des fidèles d'une tête, sent une bête lui fouiller la poitrine. Il tente en vain de repousser ce sanglier dans sa bauge. On est à l'église tout de même. Mais le souffle lui manque. Un groin vorace lui déchire les entrailles. Ses jambes se dérobent alors, et c'est de justesse qu'il s'accroche à son idiote d'épouse qui appelle à l'aide. On se bouscule aussitôt à son secours, et lui s'en veut de défaillir. Juste avant de tourner de l'œil, il maudit ceux qui vont encore se réjouir de son malheur. Le médecin qui se penche sur son cas a troqué la calèche pour une automobile à manivelle. C'est un rustre qui n'hésite pas à sermonner ses patients. Il exige le repos absolu. Sans doute est-ce lui qui suggère à Irène de prévenir sa fille. Je la crois incapable d'une quelconque idée. Tant qu'à supposer, je parie que le télégraphiste trouve le bel Armand au seau du lit. Peut-être en galante compagnie, ce zèbre gouverne désormais ses affaires de ferraille dessous les draps et n'en sort que pour faire la nouba dans les bouges de la capitale. La nouvelle l'affecte-t-elle? J'en doute. Entre son frère aîné et lui planent des ombres féroces, à commencer par celle de Suzy, dont on parle comme une traînée. On accuse Armand d'avoir corrompu la gamine. Lui prétend qu'il s'est contenté de la laisser vivre. Il n'y a rien à résoudre. L'oncle prévient pourtant sa nièce. Au fond, c'est tout ce qu'on lui demande et il s'en acquitte volontiers. Certains voient leur vie basculer au coin d'une rue, d'autres sont rattrapés par leur destin en plein sommeil. La foudre frappe à sa guise. Elle vous désarçonne en pleine course ou vous cueille au repos sous un arbre. Tout est bon et rien n'est gravé dans le marbre. Suzy, ce 14 mars, essaie de nouvelles robes chez un tailleur du faubourg Saint-Honoré. Étourdie par le froissement des étoffes et le balai capiteux des parfums, Suzy ne devine rien du ciel. Du ciel qui s'obscurcit au-dessus de son horizon. Quand elle apprend qu'on la réclame, elle envoie tout valser. Au moment de boucler ses bagages, ses yeux sont à coup sûr plus mauves que jamais. Elle l'écrit au dos d'un vieux Bristol. Il semble que ce soit enfin l'heure du pardon. Je peux bien prendre un peu de temps et suivre sur les lacets dont les collines de Fayard sont encore balafrées le taxi qui ramène Suzy à la source. L'imaginer sur la banquette arrière, à la fois tendue et soulagée, de revenir sur ses pas. Inquiète, comme il se doit, mais plus élégante que jamais, femme jusqu'au bout des ongles, fardée avec justesse. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Ce texte de Alain Emery, Passage des Mélancolies, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.